La nuit des morts vivants, c'est génial. Vous ne me croyez pas? Vous allez voir.
Carte d'identité. Titre:
La nuit des morts vivants.
Genre:
Film d'horreur.
Réalisateur:
Georges Romero.
Date de sortie:
1968.
Signe distinctif:
Film en noir et blanc, premier film des morts vivants modernes. Nous sommes dans un cimetière de Pennsylvanie, aux États-Unis. Un frère et une sœur viennent se recueillir sur la tombe de leur père. Mais ils sont attaqués par un homme déguenillé et titubant. Le frère meurt et la sœur se réfugie avec un routier noir dans une maison abandonnée où ils se barricadent. Quand la nuit tombe, les morts vivants les attaquent. C'est le point de départ du tout premier film de mort-vivant tel qu'on les croise un peu partout au cinéma, à la télévision ou dans les jeux vidéo. Il y avait déjà eu des films de zombies, des créatures inspirées du folklore vaudou qui sont plus des cadavres ensorcelés et transformés en esclaves. Mais dans ce film, les morts-vivants sont des cadavres qui sortent de leur tombe et qui n'ont qu'une idée en tête, manger les vivants. Et ça, c'était du jamais vu à l'époque.
Night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures.
Le réalisateur Georges Romero a 28 ans au moment de la sortie du film. Il n'est pas particulièrement attiré par les films d'horreur à l'époque, mais il pense qu'un film de monstres pourrait être intéressant commercialement pour un premier film. Il sera au moins acheté par les drive-in. Pour le scénario, Romero s'inspire du roman « Je suis une légende » de Richard Matheson avec ses hordes de monstres, de vampires morts-vivants. Comme le budget est limité, il imagine des monstres simples, avec peu d'effets spéciaux, des morts-vivants, peu vêtus et peu maquillés. Le film est tourné en noir et blanc, moins cher que la couleur, mais terriblement efficace à l'écran. Il est construit comme un reportage, ou presque, et rend l'action particulièrement crédible. Et puis, le héros est noir. C'est Ben, joué par Dwayne Jones, un choix particulièrement courageux dans une Amérique qui se rappelle de la ségrégation.
I know you're afraid. I'm afraid too. But we have to try to board the house up together. Now, I'm going to board up the windows and the doors. Do you understand?
Le film coûte un peu plus de 100 000 dollars et rapporte 250 fois sa mise après sa sortie au cinéma, ce qui en fait un des films indépendants les plus rentables de l'histoire. La nuit des morts-vivants lance la mode des films de morts-vivants et des films d'horreur à message politique. Et ça, c'est génial.
Merci Goriandel Pâture, et on va continuer de triturer la cervelle de Georges Romero en bonne compagnie. Bonjour Thomas Bouduret.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes traducteur, auteur et expert en cinéma de genre. Vous allez discuter avec nous de ce film et de tout ce qu'il a pu apporter à la pop culture. Et plus près de moi, il y a Louis Danvers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste cinéma. Alors messieurs, bienvenue. Première question, pourquoi La nuit des morts vivants est-il, pour vous en tout cas, à titre personnel, un film génial? Mais attention, je ne veux pas entendre le mot mort vivant ni le mot zombie dans votre argumentaire. Allez Thomas, je vous laisse la main.
Ben, faut quand même se remettre dans le contexte de 1978, du moins du cinéma d'horreur de l'époque. Mm-hmm. On était à peine en train d'enterrer les vampires de la Hammer qui était censée à l'époque avoir ajouté un plus en question sexe et violence, ouais. Alors que ça s'est quand même bien modéré maintenant. On en était encore là, l'horreur c'était encore les châteaux gothiques et les demeures. Et d'une certaine façon, comme le fera un petit peu plus tard, un certain Stephen King, on amène l'horreur chez vous, dans votre jardin. Mm-hmm. C'est un effet, c'est mort-vivant, mais c'est dans un décor absolument normal. C'est un peu le genre de choc qu'on a l'habitude de le faire maintenant, puisque souvent c'est un début le plus normal possible, ce qui a été un peu lancé par l'armée des morts-vivants de évidemment, je ne vais pas me rappeler son nom, parce que sinon c'est Zack Snyder. Voilà. Ouais. Un club absolument normal qui plante le décor de la normalité, subitement le chaos arrive.
Mm-hmm. L'horreur dans la normalité. Et pour vous, Louis, pourquoi ce film est-il particulièrement génial ?
Ben d'abord parce qu'il révolutionne quand même un genre horrifique, dont l'influence ensuite va devenir énorme, y compris sur les grands films hollywoodiens populaires. Aussi parce qu'effectivement, le film, c'est en 1968, et c'est vraiment l'aube d'une révolution dans la manière de faire des films aux États-Unis. Bon, bien sûr, tout le monde parle de Easy Rider qui arrive, mais à sa manière trash, Romero, lui aussi, s'inscrit dans ce qui va ouvrir la voie au nouveau Hollywood, celui de Coppola, Scorsese et Bogdanovich et autres, qui, entre parenthèses, sont des gens qui ont tous commencé à travailler avec Roger Corman, qui était le spécialiste du film d'horreur à petit budget.
Oui.
Donc on a une matrice quand même là qui vient du cinéma d'horreur et qui ouvre la voie à un nouveau cinéma états-unisien. Mm-hmm. Et alors, micro-budget, mais aussi macro-idée. Et aussi, ce truc, c'est cette audace extraordinaire qui est aussi permise par le fait que le film est apparu juste avant qu'apparaît le système de classement qui permettait l'accès par âge au cinéma.
Oui.
Et donc, en matière de gore, on s'est permis des choses. Ce qui se passe avec la petite fille, impliquer des enfants dans des trucs d'horreur. Il y a là un souffle de liberté qui est vraiment très spectaculaire et très jouissif encore aujourd'hui.
Alors, il en va un peu des films d'horreur et peut-être plus particulièrement encore des films de mort-vivant, c'est un peu comme le foie de veau, les huîtres ou les artichauts, il y a les inconditionnels et puis ceux qui détestent. Alors comment, pour replacer quelques balises, comment on explique qui est Romero à quelqu'un qui n'a jamais vu un film de mort-vivant ? C'est qui Romero ?
Ben Romero, c'est un réalisateur très personnel, qui vraiment faisait ses projets. Il a fait quelques films avec l'industrie, mais sinon il est à l'origine de tous ses projets. C'est quelqu'un qui est persistant.
Oui.
Parce qu'il n'a pas voulu, il a fait 6 films, la saga au total de ces morts-vivants, c'est 6 films, mais il ne l'a pas fait uniquement pour profiter de quelque chose. Il a fait, dans Day of the Dead, il a vraiment poussé le Schmilblick encore beaucoup plus loin, et puis il a signé, quelques années après, une dizaine d'années après, le film de morts-vivants absolu, qui est Zombie, donc Dawn of the Dead, qui est un chef-d'œuvre absolu, et qui l'a aussi, en termes à la fois horrifiques et politiques, pousse le système Romero beaucoup plus loin. Par ailleurs, c'était un type d'une douceur, je l'ai rencontré à 2 reprises, c'était un gars d'une douceur absolue.
Ok, donc ce n'était pas un serial killer ni un mangeur de chair, ça on pourra en tout cas le signaler. C'est vrai que le choix de faire un film d'horreur, Gorion Del Pâture l'a expliqué en début d'introduction, il est au départ purement calculé. Alors Thomas Bauduret, l'horreur au cinéma, ça a toujours fait vendre, ça a toujours été un bon calcul?
Pas toujours, puisqu'il y a quand même eu une grande zone blanche avant que Scream mette le genre un petit peu au devant de l'affiche. Mais oui, en effet, le classique du film d'horreur, c'est un film à petit budget, dont on ne croyait pas forcément. D'ailleurs, notre collègue a fort justement cité Easy Rider, c'était aussi un petit film indépendant auquel personne ne croyait et qui a été un succès du public, ce qui est à peu près impensable de nos jours. Mais la tradition, c'est le film venu de nulle part qui cartonne. Ça a été le cas avec Halloween de Carpenter, ça a été le cas avec énormément d'autres, avec Get Out plus récemment, qui lui aussi brisait un petit peu tous les codes, tout en d'une certaine façon les suivant. Enfin, je dirais, voilà, c'est ça, un film d'horreur, c'est pas forcément facile, si on veut faire de la production Blumhouse avec un effet choc à 2 balles toutes les 10 secondes, c'est facile, mais en faire un correctement qui change les choses, c'est difficile, mais par contre, en effet, ça peut rapporter gros pour des producteurs. Parce que rappelons quand même que, selon une vieille tradition du cinéma américain, les investisseurs et Romero n'ont quasiment rien touché sur l'immense succès du film.
Oui, à cause de ce problème de copyright, c'était ça, lui l'envers.
Vous avez oublié de mettre le copyright.
Oui,
et c'est une tradition dans ce genre de montage financier où on commence. Ils ont commencé au départ, il n'y avait que 8 000 $, et puis ils ont pu faire rentrer une dizaine d'autres financiers, etc., etc. Et bon, c'est pas neuf.
Oui, effectivement.
Comme ça dans le rock aussi.
Oui, il paraît que Massacre à la tronçonneuse aussi a eu exactement le même problème de copyright.
Toby Hooper, effectivement.
Voilà. Ouais. Il n'a rien touché sur son succès. Alors, on le sait, c'est son tout premier long métrage. À l'époque, Romero, il a 27-28 ans, il travaille encore dans la publicité. Il va réaliser tout ça avec des bouts de ficelle, ils vont tourner les week-ends, ça va être au petit bonheur la chance, le film va mettre longtemps en fait à s'assembler. Mais on peut pas nier qu'ils ont pallié le manque de moyens par des trouvailles. Alors sur le plan technique peut-être, en quoi il est remarquable ce film ? Qu'est-ce qu'il apporte ?
Mais il apporte beaucoup de choses. En fait, il a été tourné dans ce qu'on a commencé à appeler à l'époque un cinéma guérilla. Donc c'est un cinéma voilà où on trouvait des solutions à bon marché à peu près tout, mais il y a un regard, il y a une manière, il y a une touche Romero qui est présente depuis le tout début. cette séquence dans le cimetière où en fait la menace ne surgit pas comme ça hors cadre, elle arrive tout au fond oui. et très lentement. Il aura fallu attendre 20 Days Later et des films comme ça pour voir des zombies qui vont très vite. Et dans les films coréens, ils vont super vite. Mais à l'époque, ils étaient lents. Et cette lenteur inexorable était quelque chose qui le rendu en était remarquable. Mmh. Et c'est bien parce que ça joue réellement sur une inquiétude que beaucoup de gens ont latente. C'est que d'abord, les morts sont beaucoup plus nombreux que nous. Mmh. Hein, je veux dire, c'est un fait. Et qu'ensuite, comme le disait très bien le cinéaste français expérimental des années 20, Jean Epstein, n'oublions pas, les morts ne le sont que légèrement.
Oh, c'est joli ça. Thomas, pour vous, ce film, qu'est-ce qu'il apporte vraiment sur le plan technique, visuel? Qu'est-ce qui change quand La Nuit des Morts-Vivants arrive?
Ben, je suis pas technicien du cinéma, mais personnellement, je trouve que surtout, c'est une utilisation du noir et blanc. Bon, il n'est pas le premier, mais le côté complètement étouffant que cela peut donner, qu'on voyait généralement surtout dans les films noirs où c'est les plus réussis. Sinon, c'est aussi, en fait, pour prolonger ce que disait mon collègue, un peu la métaphore du mort-vivant, le côté complètement nihiliste, quoi. C'est les morts, c'est un peu la mauvaise conscience qui reviennent, qui en effet n'ont pour eux, bah, uniquement leur masse, quoi. Mm-hmm. Ils attaquent en... C'est ça. Et on en vient... Et en général, c'est un côté... On sait très bien que ça va mal finir, quoi.
Ouais.
Souvent, dans la plupart des films de mort-vivant, c'est ce qui a poussé jusqu'au bout Shaun of the Dead, qui est à la fois une excellente parodie de film de mort-vivant et film de mort-vivant convaincant. Il y a quand même cette fin où ils savent très bien qu'ils... Ça y est, c'est fini, quoi. Bon, ils s'en sauvaient à la fin. Mais il y a quand même ce moment absolument nihiliste où, ça y est, on va tous crever, en gros.
Ouais, un moment qu'on retrouve toujours de façon quasiment récurrente dans tous les films à base de mort-vivant. Et justement, je voudrais qu'on se penche un peu plus sur le scénario. Alors, Romero, il va quand même s'inspirer du roman de Richard Matheson, Je suis une légende, où là ce sont des genres de monstres vampires morts-vivants, c'est encore un peu différent, lui il va adapter ça à sa sauce évidemment. Matheson qui reste quand même une référence récurrente hein, chez tous les maîtres du genre, vu que c'est une des inspirations aussi de Stephen King, d'Anne Rice, de plein d'autres. Est-ce qu'il y a une filiation, un cousinage automatique finalement entre tous les classiques de l'épouvante, si on remonte un petit peu les fils de l'arbre généalogique, Thomas?
Bah, il est quand même rare que quelque chose soit fait totalement ex nihilo, quoi. Mm-hmm. Quand on regarde les arborescences, tout ce qu'on croit original a forcément été inspiré. Et quand on croit avoir une idée originale, on trouve bien un obscur auteur serbo-croate qui l'a eu avant vous. Donc, c'est pas tellement la question. Antonio Romero a apporté sa pierre à l'édifice, mais comme on dit, il était sur les épaules des géants.
Oui. Ouais. Avant de devenir un géant lui-même, effectivement. Mais il y a quand même une grande innovation dans La Nuit des Morts-Vivants, c'est le mort-vivant lui-même, on l'a dit en intro. C'est quand même le premier méchant 100% organique, si je puis dire, qui vient ni de l'espace, ni de l'au-delà, ni d'une dimension fantastique, ni d'une dimension surnaturelle. Qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va induire, ça, au niveau du mécanisme de la peur?
Mais cette horreur organique, c'est quelque chose, vous parliez de l'aspect littéraire, mm-hmm. des sources littéraires, il y a toute une partie du cinéma d'horreur qui vient en fait de la littérature britannique, hein, je dirais Frankenstein, Dracula et tout ça, mais il y a ce fond américain, il y a Matheson, etc., mais il faut remonter au grand-grand-père de tout ça, qui est Howard Philip Lovecraft.
Oui.
Qui pratiquait, c'est une science-fiction horrifique, mais qui avait cet aspect organique, c'était... Voilà, c'est tous les jours, c'est là. Mm-hmm. Ça peut être la personne à côté de soi. Et cette proximité, on en joue de manière extraordinaire dans le film de Romero. Et c'est cet aspect réellement, oui, organique de la peur et quelque chose, parce qu'on s'identifie, on va tous mourir mm-hmm. d'une manière ou d'une autre. Et quand on voit les déclinaisons maintenant, et déjà à ce moment-là, c'est faire face à l'autre, au proche, qui a déjà été contaminé,
oui.
qui est mort, qui se relève, et qui veut vous manger. Mmh. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment dans l'intime, le plus intime de la chair, et ça mélangé avec une dimension politique dont on parlera peut-être.
Oui, bah, dont on va même carrément parler tout de suite, en fait, parce que c'est vrai que ce message politique du film, on ne l'a pas encore abordé. On rappelle qu'à l'époque, l'Amérique est encore en pleine guerre du Vietnam, la ségrégation a été officiellement abolie depuis 3 ou 4 ans, et Romero arrive donc avec cette histoire de guerre absurde contre un ennemi déjà mort, avec en plus à l'avant-plan, un héros noir, joué par Dwayne Johnson, le seul juste du film, finalement. Est-ce que le message, il est directement compris par le public de l'époque?
Bon, c'est allusif.
Oui.
Mais c'est comment ne pas voir l'ironie terrifiante de voir Ben être victime, finalement, non pas des zombies, mais d'une bande de chasseurs blancs fou de guns, qui s'amuse à allumer les zombies et qui finalement descend d'un noir. Mm-hmm. Et donc là, comment ne pas voir quelque chose? Comment ne pas voir dans Zombie, dans Dawn of the Dead, le film qu'il a réalisé après, qui se déroule autour d'un mall, autour d'un centre commercial? Comment ne pas voir une critique de la société de consommation, puisque les zombies reviennent tous vers ce centre commercial de manière obsédante? Alors ça n'a jamais été lourd, ça n'a jamais été très explicite, mais ça a toujours été présent chez Romero. Mm-hmm.
Thomas, le film de zombie, c'est la bonne trame finalement quand on veut faire passer un message politique par le genre horrifique?
Ben, ce qu'il y a, c'est que le zombie, enfin moi je préfère le mort-vivant, parce mort-vivant. Que comme vous l'avez justement dit, le zombie, il y a quand même un contexte haïtien, vaudou, que je ne vais pas développer. Bon, il suffit de voir le film Vaudou, I Walk With The Zombie, Jack Turner, pour comprendre. Mais en fait, le mort-vivant, c'est, oui, parce que c'est la métaphore idéale, c'est-à-dire c'est un ennemi, mais est-ce vraiment un méchant? Tout comme on peut dire que le requin des dents de la mer n'est pas vraiment un méchant, il fait juste ce que sa nature le pousse à faire. Mmh. Tandis que le mort-vivant, c'est un adversaire qu'on ne peut pas raisonner, on ne peut pas lui donner quelque chose, on ne peut pas transiger. Non, tout ce qu'il veut, il est animé par deux ou trois pulsions. En effet, c'est là que je trouve qu'on va à fond dans la critique avec Dawn of the Dead, où une de leurs dernières pulsions, c'est d'aller bien gentiment vers le centre commercial comme de mon petit. C'est un vampire, on peut trouver un moyen de lui coller un pieu dans le cœur. Un monstre, on peut le tuer, on a quelques bombes, et ça y est, c'est parti. Un mort-vivant, non, parce que si on en tue un, il y en a 10 derrière, et de toute façon, on ne peut pas le raisonner.
Ouais. Et puis avec tout le problème de conscience que ça pose, parce que là où le monstre est un monstre, le mort-vivant est un ancien vivant, donc on se retrouve un peu face à nous-mêmes. Il y a toujours ce cas de conscience qui se pose dans les films de mort-vivant finalement.
Il y a toujours ça, et ça a été développé par Romero lui-même dans Day of the Dead, où là il y a un retour à l'humanité. Mm-hmm. On cherche à réveiller ce qui reste d'humain. Et bien entendu, il y a l'armée qui ne veut pas en entendre parler, les scientifiques essayent de... Mm-hmm. Et puis l'armée est là uniquement pour tuer, kill, kill, kill. Ouais. Donc là encore, la dimension politique arrive.
Mmh. Thomas ?
Le jour des morts vivants, qui est extrêmement subversif, puisque Romero va le développer par la suite, l'idée qu'il puisse fonder une société des morts vivants.
Oui, effectivement.
Et
oui.
Of the Dead aussi.
Uh-huh. Alors, le mort-vivant, du reste, il n'a pas changé hein, depuis le film de 68, ou si peu, parce que qu'on voit des jeux vidéo ou les films ensuite, comme toute la saga Resident Evil de Capcom, Walking Dead, 28 jours plus tard, bref, le cinéma, les jeux vidéo, on continue de s'inspirer finalement de cette matrice établie par Romero. Peut-être dans le cinéma plus récent, et pas forcément dans les films de mort-vivant, peut-être, est-ce qu'on a des héritiers de Romero et de cette nuit des morts-vivants?
Oh, il y a des héritiers, évidemment. Et il y a des choses assez jouissives, même dans un cinéma qui n'a pas les mêmes ambitions, je dirais, par rapport à ce qu'il nous dit. Je veux dire, Zombieland est un film qui est à sa manière parodique, en tout cas pastiche, très drôle. Du côté les Espagnols, dans Rec, par exemple, qui est un film clairement qu'on peut relier, c'est une réussite quand même assez remarquable. Du côté des Coréens, Dernier train de Busan, pour Busan, là, c'est... C'est très très fort. Avec ce changement qui avait été amené par 28 jours après, 28 semaines après, qui est que tout à coup, les zombies, ils couraient. Parce que il y avait ce truc, c'est que les zombies sont lents. Moi, dans ma tête de spectateur, ça a toujours été un élément plus horrifique encore. Uh-huh. Ce fait que c'est inexorable. Et que oui, bien sûr, on peut courir plus vite, mais ils vont quand même nous avoir, in fine. Et tandis que là, en plus, ils deviennent ultra rapides. Mm-hmm. Et alors là, on se retrouve dans une autre dimension panique qui ressemble évidemment beaucoup plus au cinéma de performance et d'effets spéciaux récents.
Oui, voilà.
Mais c'est un élément marquant. Là, ça a été vraiment un changement, tout à coup.
Thomas, il fallait augmenter le rythme des zombies, des morts vivants, les accélérer pour se mettre au diapason du rythme du cinéma d'aujourd'hui.
À vrai dire, ce qui est marrant, c'est qu'on a cité Dracula à raison tout à l'heure. Uh-huh. C'est que Dracula, qui a un petit peu codifié le mythe du vampire tel qu'on le connaît actuellement, toutes les civilisations ont une forme ou une autre de vampire, mais enfin le pieu dans le cœur, etc. C'est quelque chose qui sort directement de l'imagination de Bram Stoker, à l'exception du vampire détruit par le soleil qui lui, par contre, vient directement de Nosferatu. Et là, en effet, le film de Romero a codifié un petit peu les morts vivants. Donc, on ne pouvait trouver des variations qu'à la marge. Donc oui, ça a été comme une époque où le vampire, surtout littéraire, était à la mode. Donc on faisait le vampire pendant une apocalypse nucléaire et un hiver nucléaire, etc. etc. Mm-hmm. On ne peut faire que des variations sur thème imposé.
Oui.
Des bonnes ou des mauvaises variations, parce que c'est vrai qu'il y a eu un temps où on avait l'impression que le premier tétard qui avait eu sa caméra DivX pour Noël se sentait obligé de tourner son film de zombies, mais c'est quand même des variations sur thème imposé. Peut-être que va trouver encore quelque chose, peut-être en revenant au mythe d'origine, qui sait, l'invasion des morts vivants de John Gilling avait repris l'idée, sans l'apparat vaudou, mais du mort vivant qui en effet était un mort réanimé pour devenir un travailleur, mm-hmm. Il n'a pas ouais. besoin de payer. De nouveau, la métaphore sera encore plus évidente. Attendons de voir. Okay. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudrait. Alors, est-ce que le public maintenant veut quelque chose de nouveau, ou plutôt s'il préférait crever plutôt que donner sa chance, est-ce qu'il n'y a pas une franchise, un remake, une suite, un épisode 23, etc. Ça, c'est la question qui reste posée.
En attendant, en tout cas, si vous voulez redécouvrir l'original, la matrice effectivement de toute la déclinaison de ce genre que sont les films de morts-vivants, eh ben, on vous conseille d'aller revoir La Nuit des morts-vivants de Romero. En plus, ça tombe bien, il est dans le domaine public, donc il est facilement accessible. Merci beaucoup à tous les deux, Thomas Bauduret, je rappelle que vous êtes auteur, traducteur, expert en cinéma de genre, et à vous, Louis Danvers, journaliste cinéma, d'avoir été avec nous ce matin pour en discuter.
La première,
9h-10h,
c'est génial.